CJSO 101.7. La Tribune, une présentation Meubles d'entrée Beaulieu et Lucier. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour tout le monde. Je vous propose aujourd'hui le dernier des trois tête-à-tête avec les candidats à la mairie de Sorel-Tracy. Après Jean Cournoyer et Corinna Bastiani, les deux dernières semaines, je reçois jusqu'à 13h Patrick Péloquet. Cette émission sera une de ligne ouverte au cours de laquelle vous pourrez lui poser vos questions. Vous pouvez déjà réserver votre ligne téléphonique que vous composez pour nous joindre. 450-743-2772, 450-743-2772. Patrick Péloquin est devant moi. On engage la discussion après la pause.
Avec environ 250 résidents et plus de 100 employés, le complexe des résidences Marquis de Tracy 1 et 2 est l'un des plus importants de notre région. Les nouveaux propriétaires de ces résidences privées pour personnes âgées, autonomes et semi-autonomes ont entrepris une série d'améliorations pour rehausser la qualité de soins et les conditions de travail des employés en investissant dans des formations pour augmenter leurs compétences. Le complexe recrute des infirmiers ou infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires, ainsi que des cuisiniers ou aides-cuisiniers. Sans diplôme ni expérience, vous souhaitez devenir préposé aux résidents? Nous vous offrons la formation sur place et rémunérée. Ces emplois syndiqués à temps plein et temps partiel vous offrent des salaires bonifiés par de nombreuses primes, notamment pour les quarts de soir et de nuit, toute la gamme d'avantages sociaux, un stationnement gratuit et les repas fournis. Venez vous joindre à une équipe tissée serrée pour réaliser un travail gratifiant dans un milieu de vie où vous ferez la différence dans le bien-être des résidents.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Spécialisé en matière de mobilier de qualité, Meubles André Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
Ici Luc Denoncourt, je vous invite à écouter l'émission Studio 101, mercredi 16 novembre, 19h, avec les prestations de Laurence Douard.
Le monde est à l'envers, je n'y vois plus clair, j'ai besoin de retrouver la lumière.
Et de Dominique Hudson.
Oh là, oh là, quelques mots juste ta voix, si l'amour est un grand mystère, je dis oh là.
L'émission a été enregistrée à la nouvelle salle du Centre de services municipaux de Sainte-Anne-de-Sorel. Studio 101 vous est présenté par l'équipe Charbonneau-Chartrand, la bijouterie Daniel Blette, la halte des 103 îles, location FGL, Pâté Griffe, Birafanelli, Botanix Comptoir Richelieu, Espace Beauté, le pro du conduit LL et William G. Walter Saucissier.
Leader centenaire bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier, une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.
Je suis dû pour me débarrasser de mon vieux divan. Tu m'aides à te bouger?
Ben, on fait quoi avec?
On le met sur le bord du chemin, juste là.
C'est bon, on s'occupe du reste. Du 7 au 11 novembre, ce sera la dernière collecte d'encombrants de l'année 2022 dans la MRC de Pierre de Sorel d'ici avril 2023. Profitez-en, l'éco-centre reste disponible pour vous. Service gratuit en tout temps.
La Tribune, une présentation Meubles d'entrée Beaulieu et Lucier. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
C'est au tour de Patrick Péloquin d'être mon invité à la tribune. Aujourd'hui, vous pouvez lui parler en composant 450-743-2772, 450-743-2772. Profitez-en, nos circuits téléphoniques sont libres. Bonjour Patrick Péloquin.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien. Authentique Sorellois?
Oui, tout à fait. Ben. Oh oui. Un authentique Sorellois, oui.
Un vrai de vrai. Né dans quel coin de Sorel?
Moi, je suis né sur la rue Provost.
Vrai?
Oh, oui, au coin Provost-Prince, là, à peu près dans ce coin-là. Là, grand bâtiment, toit vert, grande colonne blanche. Là. Je pense que c'est le plus grand édifice qu'il y a dans ce secteur-là.
Fils de Liliane et Yves, votre maman était fortement minoritaire dans la maison parce que vous avez deux frères. Faisait trois hommes, une femme. Oui. Pauvre femme.
Ah, ben,
avez-vous donné du fil à retordre?
Oui, quand même. Mais elle n'était pas toute seule parce que très rapidement, là, ma grand-mère maternelle est venue vivre avec nous à la maison.
Ah ouais.
Donc oui, tout à fait. Fait que on était les trois. Mais elle aussi, elle là. Avec trois enfants, là, c'était avec trois garçons, ça courait beaucoup dans la maison.
Quel genre d'enfant vous étiez? Est-ce que vous étiez en effet plutôt tannant ou
Non, j'étais plutôt sage à faire mes choses là, quand même. Mais c'est sûr que les dynamiques de frères font que, évidemment, ça crée du mouvement et de la vie dans la maison. Mais moi, à l'école, j'ai toujours été très, très sage, très studieux à faire mes choses. Là, puis quand même un gentil petit garçon, on peut dire.
vos parents, est-ce que c'était des gens qui étaient impliqués dans la communauté? Le sont-ils toujours? J'essaie de voir d'où vous est venu ce goût là, d'implication.
Ben moi, j'ai le combo. J'ai le combo idéal. Mon père est électricien en construction et il était délégué syndical. Donc, il était très impliqué au niveau du syndicat. Et ma mère, elle était gérante dans le temps Miracle Mart, qui est devenu Magasin M. Fait qu'elle était du côté de la gestion. Fait que j'avais les deux mondes. J'avais les deux mondes. Okay. J'étais l'assistant des assemblées syndicales de construction. J'avais 8-9 ans, puis j'ai regardé ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, il se passe des choses ici! » Puis en même temps, j'allais voir ma mère au magasin, puis là, je voyais un peu comment ça se passait avec tout le monde.
OK. Alors, deux frères, vous avez fait ça plus paritaire avec votre conjointe Geneviève. Vous avez quatre enfants, deux filles, deux garçons.
Oui, deux filles, deux garçons. Mes deux filles qui ont 22-20 ans, puis mes garçons, deux jumeaux identiques de 18 ans, oui.
Est-ce qu'ils suivent la campagne électorale de papa de très, très près?
Oh, de très, 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 très près. Ils sont même impliqués. Alors, évidemment, c'est bien de voir ça, de pouvoir faire ça en famille. Là.
Vos voisins, le monde est petit, ce sont les beaux-parents de Corinna Bastiani. Non, mais là, vraiment.
On pourrait faire une série télé. Hein?
Moi aussi, je pourrais en faire une. Je vous parle de moi deux secondes. Moi, les voisins de mon père, ce sont les parents de Sophie Pagé-Sabourin.
Ah, ben voilà.
Qui était mon adversaire solidaire en 2015. Alors, je sais ce que vous vivez, Patrick. Mais les parents de Corinna, les beaux-parents de Corinna, ils ont dû vous appuyer, par contre, quand vous avez avec elle, fait partie du parti d'aujourd'hui. Alors, ils ont même dû faire votre campagne dans le quartier. Là, c'est peut-être plus délicat un petit peu, là.
Ben là, pour l'instant, on s'aime beaucoup, là, hein, parce que j'ai vraiment une super belle relation avec mes voisins. Fait que, dans le fond, là, on discute de feuilles mortes.
OK. Parlant d'affaires mortes, le parti d'aujourd'hui.
Beau lien.
Corinna, c'était votre chef quand, en 2013, vous avez fait votre entrée à l'Hôtel de Ville. Oui. Seul élu du parti d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. On était dans le même parti. On a fait équipe ensemble pendant la campagne électorale. Puis suite à l'élection, bien évidemment, j'ai été seul élu. Alors moi, j'ai voulu travailler avec le conseil parce que je voulais pas faire le rôle d'une opposition systématique. Moi, je voulais plutôt construire ma ville. Et au fil du temps, Mme Bastiani a démissionné du parti. Elle s'est retirée comme chef. Là, je me suis retrouvé avec la responsabilité du parti. Puis c'était pas quelque chose que j'entrevoyais. Le membership était à plat complètement. Alors j'ai dit, bon, ben là, moi, je veux pas porter ça à bout de bras. En plus de porter, parce que mes enfants étaient quand même jeunes à cette époque-là, m'occuper d'un parti, m'occuper de ma carrière professionnelle, m'occuper de la carrière politique, m'occuper de ma... Non, j'ai dit non. C'est pour ça que le parti, dans le fond, est mort.
Est-ce qu'on peut dire que vous l'avez sabordé ou c'est plus compliqué que ça? C'est une décision membres?
Le parti a été abandonné. Puis moi, je me suis retrouvé avec les rênes de quelque chose que je ne vais pas porter avec si peu de gens qui étaient alentour. Donc, on a fermé les livres.
Vous logez pas mal aux mêmes enseignes, Mme Bastiani et vous. Normal, vous avez fait partie de la même formation politique, vous avez écrit le programme ensemble. Mm-hmm. Vos deux candidatures sont, pour Jean Cournoyer, la situation politique rêvée, non? Vous êtes une guerre fratricide entre vous et Corinna, puis...
Moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour tous ceux qui se présentent en politique, peu importe le palier de gouvernement. Puis quand on décide d'y aller pour un poste puis qu'on se retrouve en opposition, ben bonne chance à tous. Alors que Mme Bastiani, parce que moi, j'ai quand même annoncé au mois de juin que je me présentais, puis que Mme Bastiani, plus tard, ait décidé de s'annoncer aussi.
Alors, c'est pas vous qui vous êtes présenté contre elle, c'est elle qui s'est présentée contre vous, c'est ce que vous voulez dire.
Ben manifestement, parce qu'à ce moment-là, elle n'avait pas signifié aucune intention de se présenter. Mais je tiens quand même à dire que si elle l'avait fait, je l'aurais fait moi aussi, là, de toute façon.
Est-ce que c'est une candidature qui vous a surpris?
Celle de
Corina Bastiani.
Ben, je pense que Mme Bastiani s'est toujours présentée dès qu'il y avait une ouverture au niveau du conseil de ville. Donc, elle s'était présentée dans l'élection partielle dans le Faubourg, là, où Stéphane Bellan a remporté l'élection. Là, elle décide d'y aller encore, mais là, je ne peux pas parler pour elle, là, ça lui appartient.
Puisque quand je vous ai demandé est-ce que c'est une candidature qui vous a surpris, vous avez hésité, vous avez semblé croire que je voulais parler de celle de Jean Cournoyer, ben, je vais vous poser la question au sujet de celle de Jean Cournoyer. Mm-hmm. Est-ce qu'elle vous a surpris, sa candidature à lui?
Oui et non. Non, dans le sens qu'on savait que les orientations du conseil de ville au niveau de l'encadrement du développement domiciliaire avaient fait des mécontents. Fait que je m'attendais, moi, à ce qu'il y ait une candidature qui naisse de ce côté-là pour justement soutenir les intérêts. Je m'attendais pas à ce que ce soit un des acteurs qui se présente. Parce que là, évidemment, ce que ça soulève, c'est toutes les notions de conflit d'intérêts. Et je m'explique, parce que c'est là que ça me surprend, la candidature, c'est que avec la multitude d'implications que M. Cournoyer a dans la ville, que ce soit au niveau du développement domiciliaire, au niveau de la propriété des terrains, au niveau de la voirie, ces entreprises, ces terrains font en sorte que ça va être extrêmement difficile pour lui de faire ça. Donc, c'est pour ça que je suis étonné de sa candidature.
Au chapitre des surprises, Jocelyn Dano s'est retiré. Il vous appuie. Est-ce que c'est une surprise qui vous appuie? Il me semble que j'ai pas toujours lu des mots tendres de Jocelyn Dano à votre endroit.
Oui, bien...
Ni à l'endroit de quiconque.
Mais je ne m'y attendais pas.
Mais là, il vous aime en temps, là.
Oui, je ne m'y attendais pas, mais peut-être que... peut-être que M. Dano et moi, dans le fond, on a des atomes crochus dans le sens qu'on a un plan.
Pensez-vous dire ça un jour que vous aviez des...
J'ai toujours cru. J'ai toujours cru parce que, évidemment, M. Dano a toujours été critique. Au même égard, Mme Bastiani aussi. Là. Je veux dire, quand les gens sont critiques par rapport au conseil, c'est nécessaire. Puis ça prend toujours des gens qui vont critiquer le travail qu'on fait quand on est élu. Sinon, on devient complaisant. Puis c'est la pire chose pour un conseil, un élu, c'est de devenir complaisant. Il faut écouter ce que ceux qui ont des critiques à émettre, il faut les entendre. Et M. Dano a toujours été très structuré dans sa pensée. Dans son programme, il y avait beaucoup de promesses là, qu'il faisait. Mais moi, sans faire autant, moi aussi j'en ai. Puis je suis structuré, puis je sais où ce que je m'en vais. Puis je sais comment, dans le fond, comment on peut travailler en équipe avec le conseil pour réussir ces choses-là. Donc, je suis bien content que M. Dano m'appuie. Pour moi, ça veut dire quelque chose.
OK. Alors, on va aller tout de suite du côté du téléphone. Il y a des gens qui patientent en ligne. Là, oui, bonjour, la tribune. On vous écoute.
Bonjour, mon nom est Richard Gagné.
M. Gagné, qui est un abonné de la tribune.
Oui.
Exactement.
Alors, allez-y, M. Gagné.
Monsieur Pellequin.
Oui.
Si vous êtes élu maire le 20 novembre prochain, voilà ma question. Ben, vous avez parlé très bien, madame, tantôt.
Ah, mais merci.
Quelle amélioration que vous pouvez apporter aux assemblées du conseil de ville comme premier magistrat?
Oh, amélioration au niveau du conseil. Bien, la première des choses, c'est...
Vous parlez de la gouvernance, M. Gagné, en quelque sorte?
Exactement, okay. Dans les assemblées publiques,
comment ça va se passer avec lui?
Décider les assemblées publiques avec du changement, selon ce qu'il vient de dire, que un grand démocrate, puis en tout cas, je n'ai pas les mots. J'ai de la misère avec ces mots-là.
OK, bien non, mais dans le fond, c'est faire preuve d'ouverture, puis être capable de bien communiquer. Fait qu'une des choses pour communiquer, là, une chose que je vois, c'est ne serait-ce que d'avoir du visuel au niveau du conseil de ville. T'sais, souvent, on va parler d'adresse, on va parler de telle place, de changement du zonage d'un endroit, de construction sur le lot 2,890 000. Ça dit absolument rien aux gens. Fait que d'avoir du visuel, là, c'est facile d'avoir du visuel. On va pouvoir mettre des cartes, on va pouvoir situer les choses dans la ville. Ça, c'est une des choses que moi,
je pense. Il y a vraiment, Patrick, une parenté avec Corina Bastiani. Elle a dit exactement la même chose que vous la semaine passée.
Ben oui, tout à fait.
Elle a dit la même affaire.
Exactement. Ben, ça en prend du visuel. Puis il faut que les gens, dans le fond, il ne faut pas que ça devienne hyper technique, un conseil de ville. Puis c'est souvent là-dedans qu'on s'enferme. Ça devient tellement technique qu'on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Fait que oui, d'avoir du visuel, c'en est une. Puis prendre le temps d'expliquer les choses à chaque fois qu'il y a un dossier pour que ça soit compréhensible.
Qu'est-ce qui vous déplaît, M. Gagné, du conseil actuellement?
Non, il y a rien qui me déplaît, mais je pense que M. Pellequin s'en va comme un grand démocrate. Mais ça, c'est compliqué un petit peu, la démocratie municipale. Je veux pas faire mon smart, j'ai déjà siégé pendant 10 ans. Je sais que c'est pas facile. Il y a des tendances sur un bord, des tendances sur l'autre bord.
Ah, okay, et, oui.
Écoutez, je souhaite bonne chance. Il veut certainement améliorer des choses à la ville.
Ah, ben oui,
donc,
oui.
je suis un petit peu sceptique. Remarquez, je vous souhaite bonne chance, Franck.
Bien, merci, M. Gagné. Mais si vous parlez justement de rallier les membres du Conseil, moi, je peux vous rassurer que déjà, là, depuis bon nombre d'années, là, on travaille très bien ensemble, les membres du Conseil et moi. En fait, j'en faisais partie de ce Conseil, puis on est arrivé avec des grandes lignes, puis des lignes fortes. Ce qui fait réagir, évidemment. Fait que si c'est pour rallier les gens autour de la table, moi, j'ai aucune inquiétude de ce côté-là.
Je vais juste conclure. Je voulais pas aller jusque-là. Là.
D'accord.
La grande démocratie, il y a un remède qui s'applique à ça. Les gens deviennent hypocrites.
Oh.
Je m'adresse pas à vous, là.
Non, mais je vous comprends. Mais c'est toujours être franc, puis d'être toujours être un livre ouvert, puis de jamais rien cacher. Puis c'est ça
merci
le secret.
Merci beaucoup, puis bonne chance.
Merci beaucoup, M. Gagné.
Merci, Richard Gagné. On va retourner tout de suite du côté du téléphone. Je vous rappelle que c'est 450-743-2772 pour parler à Patrick Péloquin. 450-743-2772. Oui, bonjour. Bonjour.
Bonjour, M. Péloquin, M. Rochon.
Bonjour.
Mon nom est Yves Fortin. Vous m'avez peut-être lu là, il y a quelques semaines dans le journal.
Oui.
J'ai publié une lettre ouverte intitulée « Urgent, besoin d'une mairesse ou d'un maire avec vision ». J'y écrivais entre autres que de plus en plus, la gestion de crise reliée au changement climatique fait partie de la nouvelle description de poste des élus municipaux. J'ai deux questions pour vous.
Oui.
Pensez-vous que les impacts... je n'utiliserai pas le mot « changement climatique », je vais utiliser le mot « chaos climatique » vont augmenter. À l'exemple de ce que l'on a vu récemment dans l'Est du Québec avec l'ouragan Fiona. La deuxième partie de ma question, c'est pensez-vous que notre municipalité est outillée pour faire face à de telles catastrophes?
C'est une excellente question, M. Fortin. Je crois fortement que il va y avoir une hausse, encore une fois, des impacts au niveau des changements climatiques et on va être touché par ça, que ce soit des grandes pluies soudaines, que ce soit des sécheresses, que ce soit des glissements de terrain, on en a vu encore malheureusement récemment. Il y a plein d'impacts qui nous affectent directement. Alors, est-ce que la municipalité est équipée pour faire ça? En partie. Il faut davantage prévenir, il faut davantage, ne serait-ce, je vais donner un exemple très concret, là, la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, là, la pression que l'on fait sur la gestion de l'eau dans la ville, elle est de plus en plus grande. Et plus on va faire de l'étalement urbain, plus on va construire et on va éloigner les habitations du centre de la ville, ça va augmenter la pression sur l'eau. On va être obligé de pomper davantage, on va être obligé de mettre encore plus de pression, ce qui fait qu'on a des municipalités aujourd'hui qui sont tributaires, qui dépendent de la ville de Sorel-Tracy.
Plus de pression égale moins de pression.
Ben oui, mais c'est ça, exactement. Donc c'est ce qui se passe. Fait que oui, effectivement, il faut être conscient de ça. Puis justement, il faut, puis ne serait-ce qu'au niveau de la sécheresse, puis il faut penser également à tout ce qui est au niveau de la chaleur dans la ville. C'est un concept qu'on utilise beaucoup, les îlots de chaleur, mais tu sais, quand on a de l'asphalte puis que ça plombe toute la journée avec le soleil, là, bien, ça fait qu'il fait chaud, ça fait que notre environnement, il se décrépit. Là. Alors oui, effectivement, il faut que la ville soit plus alerte là-dessus.
Monsieur Fortin?
Merci pour vous.
Allez-y.
L'année passée, le 8 novembre, jour pour jour, nous avons envoyé quelques citoyens une lettre d'invitation à tous les nouveaux élus de la MRC, incluant ceux de la ville de Sorel-Tracy, évidemment, proposant à l'initiative de citoyens de créer un comité où les élus pourraient participer et devraient participer, un comité de lutte au changement climatique et d'adaptation au changement climatique. La ville a décliné l'offre. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi?
À ce moment-là, le 8 novembre passé?
Oui, vous avez tous reçu ça. C'est moi-même qui ai envoyé des courriels à vos adresses personnelles de courriel à la ville.
Oui, tout à fait. Alors là, évidemment, l'année passée, on sortait d'une élection. Puis évidemment, là, à ce moment-là, il n'y avait, avait pas de structure encore au niveau de la vision puis où est-ce qu'on était pour aller. Moi, j'ai demandé à ce moment-là à ce qu'on se rattache au plan stratégique de la ville parce que dans le plan de la ville, on avait justement un volet au niveau de l'environnement. Ça n'a pas nécessairement été entendu. Et à ce moment-là, puis là, évidemment, avec le temps qui a passé, bien là, vous n'êtes pas sans savoir là, tout ce qui s'est passé au niveau de la ville au printemps passé. Mais moi, ça fait partie de mes engagements. Moi, je veux créer un comité consultatif d'environnement. ce comité consultatif d'environnement-là va se rattacher à un projet que j'ai qui s'appelle la Charte verte de Sorel-Tracy. Puis je veux que la Charte verte de Sorel-Tracy soit une espèce de règlement qui va obliger la ville à tenir compte constamment de l'impact environnemental des mesures qui sont prises. Fait que ça va être relié à un comité citoyen. Fait que j'ai entendu ce que vous avez dit l'an passé, puis je veux justement matérialiser cette promesse-là.
Merci, M. Fortin.
On aura l'occasion d'échanger de plus en profondeur sur le sujet.
Ça, avec plaisir.
Je vous souhaite bonne chance.
Merci beaucoup.
Merci, Fortin. Alors, pour rejoindre la tribune, c'est 450-743-2772. 450-743-2772. Profitez donc de la pause publicitaire pour réserver votre ligne.
Si votre dernier vaccin contre la COVID-19 remonte à plus de 5 mois, c'est le moment d'aller chercher une nouvelle dose. Faire le plein d'anticorps permet de réduire le risque d'avoir ou de transmettre le virus, en plus de contribuer à diminuer le nombre d'hospitalisations et de décès liés à la COVID-19. Pour une meilleure protection contre le virus, prenez rendez-vous au québec.ca/vaccin-COVID et suivez la séquence de vaccination recommandée. La vaccination contre la COVID-19, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
Leader centenaire bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Chez Meublerie Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Spécialisé en matière de mobilier de qualité, Meublerie Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
La Tribune, une présentation Meubles d'André Beaulieu et Lucier. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Alors, si vous vous dites, on n'est jamais capable d'avoir la ligne, bien là, c'est le temps. 450-743-2772, nos circuits téléphoniques sont tous libres. J'ai appris en écoutant l'entretien, Patrick Péloquin, que vous accordiez à mon collègue du matin, Alex,
oui,
que vous aviez à l'école deux centres d'intérêt. L'expression dramatique et l'histoire, moi je trouve que ce sont des passions qui préparent bien la politique, non? Le théâtre et l'histoire.
Oui, mais c'était pas le but. Honnêtement, je pensais jamais faire de la politique un jour, là. C'était pas dans mes options de carrière.
Non, vous avez jamais pensé à ça?
Ah non, non.
Ah non,
ah, non. Moi, j'avais pensé de journaliste.
Ah oui,
c'est noble, bien sûr. J'avais pensé être journaliste, j'avais pensé être enseignant, bien sûr, là, ça faisait partie de mes options, mais la politique, c'est vraiment venu plus tard, là, quand j'enseignais, en fait. À force de dire aux élèves, votre action peut changer le monde, vous pouvez vous impliquer, chaque action individuelle a un impact. Puis là, je leur disais ça, puis en leur disant ça, je réalisais que, ben moi aussi, je peux le faire. Tu sais, je faisais beaucoup de bénévolat, je m'impliquais dans plein de choses, mais jamais j'avais considéré la politique. C'est là que j'ai fait, ah ben, je suis allé.
Une de vos élèves très connues, c'est Catherine Fournier, qui est mairesse de Longueuil. Elle vous a visité il n'y a pas longtemps. Elle a fait plus que ça. Elle vous a donné son appui.
Ouais.
C'est à elle qu'il faudrait que je pose la question, mais c'est pas un peu délicat de sortir de son... Il n'y a pas un devoir de réserve quand on est mairesse d'ailleurs, surtout en Montérégie, la capitale de la Montérégie, Longueuil. Ouais. Elle donne son appui à un des trois candidats, la mairie de Sorel-Tracy. Mm-hmm. C'est pas touché un peu. Je comprends, ça vous fait plaisir.
Là. Ben, c'est sûr, mais en même temps, il faut dire que le contexte est différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un contexte d'élection générale de municipale au Québec au complet. Donc, c'est assez rare que ça survienne, ce genre de situation-là, où on a des maires élus qui sont là, puis qu'il y a une campagne électorale à la mairie dans une autre ville. Mais il y a aussi les orientations. Là. Madame Fournier et moi, là, même si on a un lien, là, un ancien lien, ça fait quand même longtemps que je lui ai enseigné, là, mais on a des orientations très, très, très semblable. Elle-même est en train de proposer la charte verte pour Longueuil. Elle est en train de penser à ça, les orientations au niveau de l'aménagement du territoire, d'aller que les villes aient plus de pouvoir, justement, pour contrôler le développement des terrains. C'est un front commun, là. Et dans le fond, moi, je veux que Sorel-Tracy joigne la voix des autres villes du Québec, parce que présentement, justement, toute cette nouvelle génération-là, puis nouvelle génération, on ne parle pas de jeunes de 20-30 ans, il y en a des maires là-dedans qui ont 50, 55, 60 ans. Là. Dans le fond, c'est une vision. Puis c'est de joindre ce mouvement-là, parce que effectivement les municipalités, c'est nous qui sommes le plus proche des gens, puis c'est sur nos terrains que ça se passe, justement, tous les enjeux au niveau de l'environnement et du développement économique aussi.
Alors, quand vous avez préparé votre programme en matière d'environnement, vous avez discuté avec Catherine Fournier?
Oui, tout à fait. On en a discuté, on a échangé, puis ça fait partie, justement, des grandes orientations. On peut pas jouer tout seul, là, au niveau... C'est mondial. Que ce soit le développement économique, que ce soit l'environnement, que ce soit le logement, tous ces enjeux-là sont mondiaux. Et ici, au Québec, bien, on a un outil. Puis cet outil-là, c'est l'Union des municipalités du Québec. Puis on doit faire des revendications auprès du gouvernement du Québec. Puis il faut s'unir. C'est toujours dans l'union qu'on va trouver la force.
Bon, je reviens à votre passion pour l'histoire. De quelle maire de l'histoire du Québec êtes-vous le plus admiratif? Ça, c'est une question que vous n'aviez pas vu venir ce midi, hein?
Non.
Pas facile,
non.
Hein?
Spontanément. Spontanément, c'est sûr que M. Lallier à Québec a été un maire intéressant. Mais intéressant dans son après-carrière aussi.
Il s'est intéressé au Parti d'aujourd'hui, lui,
oui,
justement.
Oui, il était venu, ouais. mais j'avais eu justement l'occasion de discuter avec lui. Je n'étais pas aussi près de lui que Mme Bastiani a pu l'être, là, quand même. Là. Mais M. Lallier a quand même contribué à l'écriture du livre blanc des municipalités. Puis ça, c'est une base. C'est ce qui a changé vraiment la donnée, qui a changé la vision au niveau des municipalités, à quel point le rôle est important des municipalités dans la vie des gens. C'est bien l'asphalte, là, c'est bien l'égout, l'aqueduc, mais c'est pas juste ça, une municipalité. C'est tout ce qu'on peut offrir de loisirs, de milieux de vie, puis de milieux naturels, puis de transport. C'est dans la vie quotidienne des gens. Fait que M. Lallier a soulevé une réflexion qui, aujourd'hui, a encore son écho dans toutes les villes du Québec. Fait que c'est sûr que lui, je le regarde comme ça. Mais c'est sûr que il y en a qui ont un franc-parler, on va parler de Régis Labeaume, là, il y a un bon franc-parler qui est derrière ça, les visions aussi de grandeur comme Jean Drapeau, je veux dire, c'est ça, mais soyons plus terre-à-terre, M. Lallier, c'est quand même un bon modèle.
OK, et le maire de Sorel qui a, dans l'histoire, le plus marqué sa ville?
Est-ce que je parle uniquement de Sorel ou je vais inclure Tracy?
Ah, inclure Sorel-Tracy dans la région, là.
Bien, évidemment, dans ça, je veux quand même, moi, saluer bien bas le travail qui a été effectué par Marcel Gauthier et Émile Parent. Parce que quand même, ces deux maires-là ont mis de côté leurs propres intérêts pour en arriver. Puis ça, c'est vraiment important. Ils en sont arrivés à une fusion municipale avant les fusions forcées.
Ouais.
Et ça, c'est exceptionnel.
Volontaire, là.
C'est ça, une fusion volontaire. Ouais. Et ça, c'est exceptionnel parce que tous les deux avaient quelque chose à perdre, là. Et ils l'ont fait pour le bien-être de la communauté. Et moi, je salue ce courage-là.
Yeah. Serge Péloquin, a-t-il été pour Sorel-Tracy un bon maire? Oublions les derniers moments, là.
Bien, je veux dire, M. Péloquin a quand même incarné un dynamisme. Et c'était sa qualité première. Il était un fier représentant de la région. Il était sur toutes les tribunes. Il a bien parlé au niveau de la région. Il a su favoriser l'implantation et l'arrivée d'organismes, d'événements dans la ville. Alors ça, j'ai toujours... puis j'ai quand même travaillé avec lui pendant 9 ans. Là. Alors, puis il a toujours cherché justement d'avoir une bonne ambiance au niveau du conseil de ville. Fait que ça, je vais toujours considérer ça comme des grands moments forts. Mais évidemment, avec la lumière de ce qu'on a appris par la suite, et c'est difficile ça à pardonner, c'est difficile à comprendre, puis c'est très difficile pour les employés municipaux qui ont vraiment vécu quelque chose, puis là on a réalisé qu'il y avait quelque chose de plus grand que nature là-dedans. Et puis là, je veux pas m'étendre trop là-dessus parce qu'il y a encore l'UPAC qui enquête sur tout ce qui se passe, là, fait que je m'en tiens à ça.
Quand est sorti là, son histoire d'espionnage du greffier, le conseil, à l'exception d'un seul membre, lui a tourné le dos. Vous avez eu des mots durs pendant cet épisode-là à son endroit. Est-ce que ça vous aide ou ça vous nuit aujourd'hui, vous pensez, ces mots durs?
Je fais jamais, quand je prends la parole, je fais jamais un calcul politique. Je vais toujours avec mes valeurs puis toujours avec ce que je crois. Et à la lumière de ce qu'on a appris avec ce scandale-là, ça m'a vraiment outré, ça m'a vraiment fâché. C'était vraiment démesuré et ça s'est surtout fait sans encadrement. Et ça, c'est difficilement pardonnable. La Commission municipale du Québec, dans le fond, nous a donné raison au Conseil de ville dans ce qu'on a avancé et également de l'administration municipale. Et encore une fois, l'UPAC continue d'enquêter sur ce qui s'est passé à ce moment-là.
Vous ne faites pas de calcul quand vous vous exprimez. Je vais quand même vous faire part d'un calcul politique. Ouais. Il jouit encore de l'affection de bon nombre de Sorelloises et Sorellois, Serge Péloquin. Alors, là où ses partisanes et partisans se rangeront dans cette course à la mairie a de l'importance. Mm-hmm. Pensez-vous que les partisans de Serge Péloquin vont être nombreux à vous appuyer le 20 novembre ou logeront-ils à une autre enseigne?
Mais je les connais pas tous personnellement. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'arrive avec une proposition. Puis c'est une proposition justement qui est tout aussi dynamique, avec beaucoup de réalisme sur le terrain, mais une proposition justement où ce qu'on va travailler en partenariat avec justement tous les organismes, toutes les entreprises de la région. Il faut fédérer tout le monde. Il faut pas que ça soit juste un one-man show, là. Il faut que tout le monde embarque ensemble, puis qu'on soit concerté, puis que quand on comprend les besoins de tout le monde, bien, on est capable de répondre à ces besoins-là. Puis c'est ça le rôle de leadership d'une ville. Alors, que les partisans, les anciens partisans, où s'ils vont aller, encore là, tu sais, ont-ils une... Je pense pas que les gens ont une pensée unique. Je pense pas que les gens suivaient nécessairement, aveuglément quelqu'un par rapport à ça. Évidemment, il y avait une affection pour M. Péloquin, très bien, mais il n'est pas là dans cette élection-ci. Alors, les gens, ils vont juger, dans le fond, des programmes de chacun des candidats, puis ils pourront faire leur choix.
OK, on retourne à la tribune téléphonique. Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Mon nom est André Pepin. Je suis membre de la CNAP. Bonjour, M. Rochambeau. Bonjour, M. Péloquin.
Bonjour.
M. Péloquin, je veux faire suite à ce que vous venez de mentionner, que vous souhaitez et travailler avec les autres maires. Dans notre périmètre immédiat, on parle de la MRC, le nouveau plan d'aménagement de la MRC qui sera déposé, mais on en a déjà, il y a déjà des assemblées publiques, on est déjà un petit peu au courant. J'imagine que vous connaissez les grandes lignes, soit le problème que nous avons avec le manque de canopée ou le manque aussi de milieux humides. Oui. La ville de Sorel a quasi droit de veto dans la MRC, étant donné sa population. Est-ce que vous serez prêt à jouer le rôle que la ville doit jouer comme leader dans la MRC pour aller vers l'application de ce plan?
Ah, tout à fait, à 100%. Il faut ce plan de, dans le fond, le schéma d'aménagement, c'est on examine les terres qui sont sur le territoire. Et on est en train de dire, ces terres-là vont servir à quoi? Puis où est-ce qu'on va installer les nouvelles maisons, les résidences? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vital, c'est un document de base, ça, quand on fait la planification d'une ville. Où est-ce qu'on va mettre nos choses? Puis là, présentement, ce schéma-là date, si je me rappelle bien, de 1988. Il s'en est passé beaucoup de choses depuis ce temps-là. Alors, je salue la MRC qui met à jour son schéma d'aménagement, puis ça va devenir un outil pour la ville de faire ça. Et tout à fait... Le rôle de leadership que la ville de Sorel-Tracy doit exercer, il faut justement, et puis c'est ce que je propose dans mon programme électoral, c'est qu'il faut revoir pour faire un développement équilibré de notre ville. C'est-à-dire que faut qu'on préserve beaucoup plus de canopées. La politique de l'arbre, d'ailleurs, sur laquelle on a travaillé, qu'on a adoptée au conseil de ville, le dit. Il faut augmenter drastiquement notre pourcentage d'arbres qui couvrent. Puis planter un arbre, là, ça ne couvre pas encore, ça. L'arbre, là, quand il est trop jeune, ça ne compte pas. Fait qu'aller raser un boisé, puis planter des arbres après, ça ne fonctionne pas. Les petits fouettes qu'on plante, là, ça ne protège pas l'environnement du tout, là.
Ça ne compense pas.
Non, ça ne compense pas. Alors oui, jouer un rôle de leadership, puis justement, on va se joindre, pas juste seulement avec les villes de la MRC ici, mais avec toutes les villes du Québec, justement, pour repenser notre développement.
Ça répond à votre question, M. Pépin?
Oui, absolument. Surtout à la lueur de ce qu'on apprend de la COP qui prévaut présentement, où on a déjà une augmentation de 1,15, je pense, de la température depuis l'ère industrielle. Or, ça va nous prendre des gens de cœur et des gens d'honneur pour être capables d'aller vers ça, si on est capable. Surtout si je pense, entre autres, aux plus démunis de notre ville, qui, eux, en sont les premiers à subir le contre-coup des changements climatiques. Alors, je vous souhaite bonne chance.
Merci, M. Pépin.
Bonne journée.
Merci beaucoup.
Merci, M. Pépin. 450-743-2772, 450-743-2772, pour parler à Patrick Péloquin. On est de retour après la pause.
Les 2 et 3 décembre, c'est la Féerie des Lumières de Saint-Joseph-de-Sorel. Assiste au spectacle de Maxime. Rafi.
On écrit sur les murs la force de nos rêves. Nos espoirs en forme de gravité.
Et les Fils du Diable.
Son
parcours de mini-golf sous le grand igloo, jeux vidéo et jeux gonflables. Activités et spectacles gratuits pour toute la famille. Découvrez toute la programmation sur féeriedeslumières.ca. La Féerie des Lumières, une présentation de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, Desjardins, CJSO et Fingal Steel.
La Tribune, une présentation meubles d'André Beaulieu et Lucier. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Dernier de ma série d'entretiens avec la candidate et les candidats à la mairie de Sorel-Tracy. Je reçois Patrick Péloquin. Vous pouvez lui poser vos propres questions au 450-743-2772. 450-743-2772. Je parlais de Corinna tantôt. Vous allez dire, reviens-en. Vous suivez la trajectoire qu'elle a choisie en 2013, tirer un trait sur ses fonctions de conseillère pour briguer la mairie. Ça ne lui a pas réussi. Okay. Alors, vous jouez comme elle l'a fait, le tout pour le tout. C'est un pari risqué, Patrick Péloquin, quand même.
Mais je veux quand même dire que le contexte est différent. Quand Mme Bastianini s'est présentée à la mairie, là, il y avait deux autres conseillers, plus le maire sortant, qui se présentaient aussi, ce qui nous mettait justement face aux problèmes symptomatiques du conseil de ville à cette époque-là, qui était complètement déchiré, aucune cohésion, et c'est ce que ça a donné, là. Donc, le contexte est quand même différent, parce que moi, je sors d'un conseil de ville uni. Je travaille en équipe avec j'ai toujours travaillé en équipe. On était vraiment une belle équipe, le conseil de ville. Et là, dans le fond, c'était de se dire, bon, ben là, le maire n'est plus là. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on s'en va? Puis là, je me suis dit, bon, ben, moi, au mois de janvier, hein, je pensais pas me retrouver ici aujourd'hui, là. Alors, c'est vraiment ensuite, quand les événements ont déboulé, là.
Ça aurait pu faire partie de vos ambitions plus lointaines,
oh, peut-être lointaines,
oui. Mais pas maintenant.
Pas maintenant, parce que quand même, moi, en me présentant comme maire, je mets de côté carrément ma carrière professionnelle.
Bon, ah oui, ça, c'est une chose à laquelle il faut revenir. Oui, là, c'est ça. Parce que au tout début, en juin, je vous demandais...
Je me rappelle très bien.
Ah, vous en rappelez. Hein? Je vous demandais, là, si vous êtes élu, vous allez abandonner vos fonctions au centre de service scolaire. Non, je vais poursuivre mes fonctions, je vais mener les deux... Si vous avez changé d'idée là-dessus.
Ah oui, complètement. Complètement parce que, dans le fond, j'en ai discuté. Bien, première des choses, je me suis dit, bon, après en avoir discuté, ça m'a amené vraiment une réflexion plus profonde en me disant, est-ce que je peux le faire réellement? Et j'ai discuté longuement avec Martin Lajeunesse, qui est maire suppléant, qui, lui, conserve quand même, en même temps, il donne encore des heures à son emploi, puis il me dit, non, il dit, c'est impossible, c'est virtuellement impossible. Et là, ça m'a amené à la réflexion, et effectivement, j'ai dit, bon, effectivement, il faut que je me dédie à temps plein à cette tâche-là. C'est ce que, de toute façon, les gens s'attendent.
OK.
Alors, voilà.
Alors, Patrick, que pourrez-vous apporter aux Sorellois comme maire que vous n'auriez pu leur apporter comme conseiller?
Bien, dans une position de leadership, c'est le conseiller travaille à l'intérieur du conseil de ville. Donc, c'est vraiment le rôle, il est à ça. Il y a quand même un rôle autour avec nos partenaires. Mais vraiment, le rôle de maire, à temps plein, justement, ça fait en sorte qu'il faut vraiment incarner une vision. Il faut qu'on ait un plan. Il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Il faut écouter les gens. Il faut écouter les organismes. Mais il faut construire avec nos partenaires. Fait que moi, ce que je veux apporter en tant que maire de la ville de Sorel-Tracy, c'est vraiment, nous allons construire un plan ensemble, et ce plan-là va être respectueux des gens, il va être respectueux de l'environnement, mais il va contribuer au développement économique de la ville.
Comment allez-vous agir? Monsieur Pépin l'a un peu abordé tantôt. Comment allez-vous agir? Mais lui, il était spécifiquement sur l'environnement. Comment allez-vous agir au conseil de la MRC si vous êtes élu le 20 novembre? Monsieur Péloquin, Serge, il y a eu des relations tendues pour des prises de position que je vous ai entendu défendre comme conseiller municipal sur Sorel-Lois. Êtes-vous aujourd'hui un autre homme? Êtes-vous devenu un partisan de ce gouvernement régional, ce que vous n'étiez pas?
Non, attention, j'ai toujours été un partisan. Moi depuis que je suis élu, comme conseiller, je fais partie du comité famille et aînés qui est devenu comité de développement social. J'ai toujours participé, moi, au comité de la MRC, toujours été là, toujours cru à la vision régionale, parce qu'une ville, ça se développe pas seule, ça se développe avec une région. Donc, pour moi, c'est très, très, très important de faire ça. J'ai eu, évidemment, des prises de position sur certains sujets précis, où là, on s'est retiré, par exemple, de la politique culturelle, puis on n'a pas non plus appuyé le PDZA. Mais c'était très ponctuel, puis au niveau de la politique culturelle, je tiens quand même à le dire, c'est que j'avais un projet de trousse pédagogique, donc sur le patrimoine de la région, et je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec la MRC, mais ce projet-là est mort. Et pourtant, on avait investi beaucoup de temps et d'argent dans le projet. Alors, j'avais vraiment, ben, qu'est-ce qui se passe? Donc, la politique culturelle, pour moi, n'était pas efficace. Mais suite à ça, suite à justement à la campagne électorale de l'an passé, je suis revenu avec la politique culturelle. Je l'ai remis à l'ordre du jour et je me suis assuré que la ville participe à la politique culturelle. Puis c'est ce qui a été fait. Puis pour le PDZA, ben là, la ville vient d'embarquer. Puis j'étais bien content que la ville embarque parce que justement, il faut penser. Notre avenir économique va être lié à toute la production agroalimentaire dans la région. Le grenier du Québec, c'est autour de nous, puis nous, on est la porte de sortie de ces produits-là. Donc, il faut miser là-dessus. Fait que c'est très important le développement de la zone agricole.
Vous comptez, si vous êtes élu, mettre sur pied une table de concertation des événements culturels et touristiques. Vous trouvez que ça manque de cohésion? Qui visez-vous là avec votre table?
Bon, je vise tous les diffuseurs culturels. Donc, tous les diffuseurs culturels, on va parler du Jib Fest, de Yo Experience, on va parler d'Azimut, de la Maison de la Musique, puis on peut parler aussi du Biophore. On peut parler, dans le fond, de tout ce qui se produit comme événement culturel, puis bien sûr, l'Office de tourisme. Donc, et puis Statera. Il faut que tous les organismes culturels soient assis ensemble pour qu'on ait une vision complémentaire puis ciblée. C'est-à-dire que si on a 2-3 spectacles dans une soirée, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ces spectacles-là s'adressent à des publics différents. Puis pour réussir à faire ça, il faut être concerté. Puis là, présentement, il n'y a aucune table, il n'y a aucune place que les gens peuvent discuter ensemble pour dire, ben voici ce que nous, on va faire. Puis éviter aussi de se piler sur les pieds puis aller essayer de recruter des artistes. Quand on a deux organismes ou une entreprise privée puis un organisme qui court après les mêmes gens pour venir les amener dans la région, c'est contre-productif. Donc, il faut absolument qu'on se parle.
Le sport semble vous tenir autant à cœur que la culture. Le complexe aquatique de 35 millions n'a pas levé de terre que vous envisagez déjà pour lui une phase 2 qui serait un terrain intérieur de soccer-football. Est-ce qu'on a les moyens de vos ambitions?
On a toujours les moyens de nos ambitions quand on travaille bien. Le complexe aquatique qui va commencer bientôt, là, et on a reçu la plus grande subvention du programme au Québec. On est allé chercher le maximum. C'est le gros lot, là.
10 millions du fédéral, 10 millions du provincial.
C'est ça, là. C'est gros 20 millions sur un projet de 30, là. Mm. C'est justement parce qu'on travaille bien. Mais pour réussir à faire ce travail-là, ce projet-là, il a fallu qu'on le scinde en deux. Parce que le premier jet du projet, il y avait le terrain intérieur avec... Et moi, puis je me souviens que ça l'a déçu beaucoup de gens, notamment au niveau du soccer, parce que justement, ils misaient là-dessus. Mais moi, je les ai pas oubliés. Moi, je ne les ai pas oubliés, puis on va en faire une deuxième phase. Mais on va bien le faire, puis on va aller chercher, encore une fois, le maximum de subventions possibles pour être capable de réaliser ça. Parce qu'évidemment, là, on va pas se lancer dans un projet de 30 millions sans avoir de subventions, c'est impossible.
Vous espérez voir Sorel Tracy devenir l'hôtesse des Jeux du Québec dans quelques années?
Ben oui, tout à fait. Mais pour être l'hôte des Jeux du Québec, ça nous prend des infrastructures. Fait que si on n'a pas les infrastructures pour accueillir les Jeux du Québec, on n'ira même pas là, vers les Jeux du Québec. On va nous demander. Mais nous, on a tellement à offrir dans la région. Là. Tellement. Il n'y a pas tellement longtemps, on a accueilli secondaire en spectacle. Puis c'est devenu un événement culturel majeur. Puis tout le monde qui venait ici disait que c'était beau ici, puis que c'était incroyable, puis que vous avez une belle région. Bien, on peut le faire aussi au niveau sportif avec les Jeux du Québec. Mais ça nous prend des infrastructures pour faire ça.
Je continue à faire le tour de votre programme électoral. Vous voulez encadrer le développement domiciliaire. Avez-vous expliqué aux lobbyistes des constructeurs, M. Lefebvre, ce que vous entendez par là, encadrer le développement domiciliaire?
Oui, c'est que présentement, à Sorel-Tracy, on n'a pratiquement aucun règlement d'encadrement du développement domiciliaire. Ce qui veut dire que pratiquement un propriétaire, quelqu'un qui possède un terrain, peut faire un plan domiciliaire, puis au niveau de la ville, on a très, très, très peu de moyens d'aller demander, d'avoir des contraintes, c'est juste dans la bonne foi, puis des fois, ça donne pas. Puis ça crée une frustration, parce que quand on n'a pas de règlement, on y va à peu près à ce que l'on pense, puis là, ça fait des allées et venues du côté des promoteurs, du côté de la ville, du côté des promoteurs, puis là, c'est comme un match de tennis, où est-ce que tout le monde se renvoie la balle, puis ça crée des frustrations, puis c'est ce qui arrive. On a des projets, on a entendu des projets, ça fait 20 fois qu'on rencontre les gens de la ville, puis c'est pas réglé. Mais c'est normal, les règlements ne sont pas définis. Alors, le schéma d'aménagement qu'on a parlé tantôt, là, ça c'est la pierre d'acier, c'est la base. Là. Puis là, à partir de cette base-là, on va construire des règlements pour faire en sorte que quand on va construire des maisons, quand on va construire des logements abordables à Sorel-Tracy, ça va se faire dans des zones qu'on dit qui sont prioritaires. Là, je pense, entre autres, aux terrains vacants. Puis, il y en a beaucoup au centre-ville, des terrains vacants. On va commencer par là. Puis, on va regarder aussi ailleurs, parce que tout peut se faire en même temps. On va regarder comment bien faire les choses, protéger notre environnement, que les gens soient d'accord avec ça, puis qu'il y ait un développement économique.
Protection des milieux naturels et humides, ça va se traduire comment? Comment vous allez faire ça?
Bien, c'est que quand il y a un projet de développement, on va regarder sur le sur ce terrain-là, est-ce qu'il y a des milieux humides, puis on va s'arranger pour que le développement se fasse autour de ces terrains humides-là. Au niveau du Québec, la loi dit que si on détruit un terrain humide, il faut compenser ailleurs. Oui, c'est ça que la loi dit, mais nous, on peut justement, avec nos règlements, encadrer encore un peu mieux ces milieux humides-là. Puis il faut les conserver, parce que s'il n'y en a plus de milieux humides, là, on va se ramasser qu'une sécheresse au niveau de la ville. Puis ça, c'est dramatique.
Vous voulez assurer une veille de la pollution et un suivi de la qualité de l'air. Vous pensez notamment au rejet de poussière au centre-ville quand vous dites ça?
Oui, ça fait partie de ça. Parce que là, présentement, quand il y a des rejets de poussière, la formule, c'est de porter plainte à Santé publique. La Santé publique vient faire une expertise, c'est long, on est dépendant de ces relations-là, puis c'est ce qui est arrivé dans tout ce dossier-là. Moi, ce que je propose, c'est que nous-mêmes, on a quelqu'un qui est responsable en environnement au niveau de la ville, on a une expertise, puis qu'on ait les outils de captation, puis que nous, on soit capable de dire, « Hey, OK, là, ici, il y a trop de particules, nous, on va en parler et aux compagnies concernées, et au ministère également. Il faut qu'on développe notre propre expertise. C'est notre ville, c'est notre aire. Il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe.
Comment vous voyez la ville de Sorel-Tracy de demain? De demain, comment vous la voyez? Jean Cournoyer semble avoir beaucoup plus grande, beaucoup plus populeuse. Il veut des nouvelles portes.
Ouais.
Est-ce que c'est votre schéma de pensée, ça, où vous êtes ailleurs complètement? C'est quoi la ville de Sorel-Tracy de demain dont vous rêvez, vous, Patrick Péloquin?
Je rêve bien de la ville, mais d'avoir plus de portes, d'avoir plus de gens. Évidemment, c'est toute ville qui veut croître, veut avoir plus de citoyens. Plus de citoyens veut dire plus de revenus pour la ville. Mais il faut faire attention comment on le développe. Si on s'en va développer de la maison unifamiliale puis qu'on étale la ville encore plus, au niveau de la ville de Sorel-Tracy, là, c'est des coûts supplémentaires. C'est plus d'asphalte. Plus d'asphalte à créer, à déneiger, plus d'égouts encore. Plus on fait de l'étalement, plus ça va coûter cher pour la ville. Moi, ce que je rêve de ma ville, il y a plein de choses que je rêve. Il y en a plein. Mais dans ces rêves-là, moi, je veux une ville, dans le fond, une ville qui va être fière, qui va être fière de sa ville, une ville qui va être belle. Je veux une ville où est-ce qu'on va innover. Parce que justement, on a des entreprises innovantes. Puis on a un outil formidable ici qui s'appelle Développement économique Pierre de Sorel. Puis cet outil-là, il est sur pratiquement un respirateur. Il a besoin de financement. Il faut que la ville reprenne son rôle de leadership au niveau du développement économique. Puis c'est par Développement économique Pierre de Sorel qu'on va le faire en investissant davantage avec eux. Moi, ce que je veux, c'est une ville qui est réfléchie, une ville qui est intelligente. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste faire de la construction pour faire de la construction parce qu'il faut qu'il y ait plus de monde. On va en faire de la construction, mais on va en faire à des places qui sont importantes. Si on fait, par exemple, il y a une pénurie de travailleurs ici. On a besoin de travailleurs. Nos industries en manquent. Mais si on s'en va construire des maisons proches de Saint-Roch, ces gens-là, les travailleurs qui vont arriver ici, là, ils vont être obligés de prendre une voiture, ils vont être obligés d'en acheter, ils n'ont peut-être même pas les moyens de faire ça, il faut organiser les transports. Si on construit, par exemple, sur le terrain, là, sur la rue Roy, là, l'ancien Coke, là,
oui. Bon, c'est vacant depuis des années, ça.
Si on construit là-dedans des tours d'habitation pour accueillir les travailleurs, ils vont être en face d'Acier Richelieu, ils vont être à quelques
pas,
coins de rue.
C'est pas formidable comme vue, par exemple.
C'est pas formidable, mais c'est pas un logement dans le but de faire une vie. C'est un logement transitoire pour ceux qui vont arriver ici, des logements abordables, qui vont pouvoir s'installer là, puis ils vont peut-être vivre 3, 4, 5 ans, puis là, ils vont avoir un emploi, une sécurité d'emploi. Puis ces gens-là, après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller s'acheter une maison. Ça nous en prend des logements. Ici, là, on construit en fonction d'avoir... On pense tout le temps aux jeunes familles, à accueillir les jeunes familles, à accueillir les jeunes familles avec des nouvelles maisons. C'est faux. Ce qu'il faut, c'est qu'il y a des gens qui habitent seuls dans des grandes maisons présentement puis qui, eux, se cherchent peut-être un condo ou qui se cherchent un appartement. Ces gens-là, quand ils vont aller vivre dans un appartement ou un condo, vont libérer leur maison, puis la jeune famille va pouvoir y aller.
Ma dernière question, Patrick Péloquin, pourquoi élire le 20 novembre Patrick Péloquin plutôt que Jean Cournoyer ou Corina Bastiani? Pourquoi vous?
Pourquoi moi? Parce que moi, j'ai un plan. Puis mon plan, il est bien défini, puis je sais où je m'en vais. Puis en fait, ce plan-là, dans le fond, est issu de tout le travail que le conseil de ville a accompli depuis les 5 dernières années. Fait que c'est pas un plan farfelu, c'est pas un plan que je vais avoir besoin de convaincre les autres, c'est un plan que tout le monde a déjà adhéré en partie, là. Il y a certaines affaires que j'ai apportées, là, mais il y a quand même un plan qui est derrière ça, c'est structuré. Moi, je sais, le 21 novembre, je sais exactement où on s'en va, là. Le plan, il est bien défini, je suis pas dans des intentions, et surtout, je fais preuve de leadership, je suis capable de rallier les gens, et je suis capable de faire en sorte que les gens vont embarquer dans ce qu'on va créer comme vision ensemble. Et surtout, et par-dessus tout, je ne suis pas en conflit d'intérêt, moi, avec mes besoins et mes possessions personnelles. Il n'y aura pas de doute quant à mes intentions quand je vais faire quelque chose. Est-ce que ça va me profiter personnellement, oui ou non? Fait que du leadership, aucun conflit d'intérêt, c'est ce que je propose pour la vie de Sorel Tracy.
Merci, Patrick Péloquin, d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve ce soir à 19h, oui, parce que fait. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, c'est le débat de la candidate et des candidats à la mairie de Sorel Tracy en direct sur nos ondes à 19h. C'est un débat qui est présenté à l'auditorium Guy Bélanger du cégep de Sorel-Tracy. On me dit de vous dire qu'il reste une dizaine de billets qui sont disponibles à CJSO. Fait que faites ça vite parce qu'après ça, c'est à guichet fermé. Merci encore, Patrick Péloquin.
Merci pour l'invitation.
Et à la semaine prochaine, chers amis.